Et du coup, on peut se retrouver dans ces situations où on est un peu débordé, ou en tout cas on a plus la main dans cette volonté de contrôler l'autre.
Oui, quand on est en insécurité, on va vouloir contrôler l'autre, mais plus on contrôle l'autre, moins l'autre est libre de ses choix, donc moins son choix a de valeur, et moins son choix a de valeur, moins je peux lui faire confiance, parce que bah, s'il a fait ce choix, est-ce que c'est parce que je l'ai obligé ou parce que c'est un choix auquel l'autre adhère pleinement? Et donc si je peux pas lui faire confiance, est-ce que l'amour qu'il ou elle a pour moi, c'est vraiment de l'amour? Et là, on se retrouve dans un cercle vicieux où j'essaye de contrôler, en contrôlant sa réponse, bah, je ne peux pas lui faire confiance, donc ça m'insécurise encore plus, donc j'ai encore plus peur, donc je suis encore plus en insécurité, donc je lui fais encore moins confiance, donc je vais essayer de contrôler encore plus, et ça s'emballe, et là, en fait, bah, on est face à un mur parce que on peut plus faire confiance vu qu'on a enlevé toute la possibilité à l'autre de dire vraiment oui ou de dire vraiment non, alors que si on accepte de lâcher un peu le contrôle, ce qui fait extrêmement peur, je peux l'entendre. Moi, c'est quelque chose qui est un peu difficile sur certains points. Je prends un risque. Je prends un risque que je lâche le contrôle, je laisse la personne faire son choix de réagir comme elle veut, potentiellement de prendre une décision qui va pas me plaire, de dire quelque chose qui va pas me plaire, mais ce choix, cette décision va être prise pleinement par l'autre. Et c'est une décision sur laquelle je vais pouvoir accorder de la confiance. Ça va avoir de la valeur. Et si je vois que cette personne, en fait, elle me choisit, elle continue de me choisir, elle me choisit pleinement sans que je la force à me choisir. Mais en fait, ma valeur, en termes d'ego, la personne, elle est là pour moi. Elle a le choix de partir, mais elle choisit de rester, de revenir. L'ego boost, il est monstrueux.
Et ça, je pense, ça fait partie vraiment de ce qui est très très positif dans les relations plurielles, à partir du moment où on n'est plus dans ces tentatives de contrôle et qu'on dit, bah, en fait, chacun est libre de son évolution. Et avoir une personne qui choisit de revenir jour après jour, pendant des années, auprès de soi, eh ben, c'est incroyable en termes
Exactement. La
de
personne au
plaisir.
quotidien, elle choisit de nous faire de la place et de nous donner de l'importance.
Pas de
Cette personne, elle
contrainte.
a d'autres partenaires, pas de contraintes envers nous. Elle le fait parce qu'elle en a envie, parce que c'est nous, parce que on compte et qu'elle décide qu'on a une place dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort en termes de... Bah là, on parlait des bras de la pieuvre. Je suis choisie. Là, clairement, c'est quelque chose à dire. Je te choisis, ce que disait Bell Hooks. L'amour, c'est une action, c'est le fait de choisir, de donner du temps et de le faire consciemment. Là, c'est l'expression la plus forte de cet aspect-là, d'une relation.
Et on tape pas sur les doigts des gens qui veulent contrôler, c'est qu'il y a une raison,
Complètement.
une fonction, et c'est ok d'en être là.
Il y a
Et
forcément
lâcher la
des...
télécommande, c'est vraiment pas simple.
Exactement. Puis on va pas lâcher la télé, comment on va pas lâcher ce besoin de contrôle sur tous les aspects en permanence. Mais quand on y arrive sur un certain aspect et qu'on voit que l'autre, on lâche prise et l'autre revient, et revient, et continue à nous choisir, c'est un cercle qui est vraiment très vertueux. Là où quand on met le doigt dans les rouages du contrôle, puis redu contrôle, puis du contrôle, toujours plus de contrôle, ben en fait, ça nous, sur le moment, on a l'impression que ça va mieux, on est rassuré. Et en fait, c'est un cercle vicieux d'insécurisation de la relation. Mais c'est pas intuitif de lâcher prise pour être rassuré.
Comment accueillir la jalousie dans un duo?
Quand une partenaire évoque voilà, un sentiment de jalousie, premier réflexe, souvent, c'est la défensive. Et c'est le mauvais réflexe. C'est-à-dire se mettre sur la défensive, se sentir attaqué, ne fait pas avancer le problème. Comment on fait pour accueillir la jalousie sans se sentir coupable? Donc il faut déjà identifier, oui, je me sens coupable, mais j'ai envie de faire en sorte que cette personne soit bien. Et la jalousie, donc elle n'a pas besoin d'être ni cachée ni niée. C'est pas honteux. Même quand ça semble accuser l'autre, elle parle avant tout de soi. Et c'est pour ça qu'on a défini les différents visages de la jalousie avant. Et donc ressentir de la jalousie ne fait pas de vous une mauvaise personne. Et donc pour rentrer dans l'authenticité dans la relation, la jalousie, elle a besoin d'être vue. Elle a besoin de tout l'espace nécessaire. Plus elle a d'espace, comme un petit chien fou, plus elle va s'essouffler. Concrètement, c'est essayer de voir l'autre, c'est de rester soit honnête, c'est-à-dire pas rentrer dans je me flagelle, je me sens coupable. Rester honnête, on est là, on se terre pas dans la culpabilité. Et des petites phrases qu'on peut dire, c'est ok, raconte-moi comment tu te sens jaloux. À quel moment? De quoi tu as peur exactement? C'est quoi les scénarios catastrophiques que tu te fais dans ta tête? À quel moment est-ce que ça fait écho à un autre moment dans ta vie? Donc là, vous voyez qu'on commence à venir chercher un peu la question de la blessure. Et on écoute encore et encore, parce qu'une personne qui est activée, elle a besoin de parler encore et encore. Et ok, est-ce que tu te sens en colère contre moi ? À quel moment exactement ? Tout ce genre de place. Et plus on fait de la place comme ça, plus l'autre va se sentir vu, dire ah oui, ah, je me sens vraiment vu, reconnu, écouté. Et hop, tout de suite, ça va retomber comme un soufflet. Et donc, on peut aussi inviter les petits de CNV dont on a parlé déjà dans des émissions précédentes, pour la personne qui se sent jalouse, de plutôt de dire tu fais ceci, tu fais cela, d'être plutôt en jeu, s'exprimer en jeu à partir des faits. Et pour la personne qui accueille la situation, de laisser l'espace à l'autre sans se sentir attaqué. C'est pas facile. Et en fait, des fois, on peut juste se dire ok, là, je me sens attaqué, je me le mets dans un coin et a posteriori, je viendrai dire ah, quand t'as dit ça, je me suis sentie attaquée.
Mais pour que cette conversation se passe bien, on va revenir à un principe qu'on a évoqué à l'émission précédente. S'il faut être capable d'être honnête envers soi-même pour être honnête envers son partenaire. Et là, on revient sur le principe de l'honnêteté radicale. Si on veut pouvoir désamorcer la crise, il faut être capable de se reconnaître pleinement ce qui se passe en soi et de répondre honnêtement aux questions de l'autre. Quand la personne dit « Mais qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Pourquoi tu as eu peur ?» Il faut arriver à dire réellement et pas esquiver, atténuer, enjoliver les choses. Comme on disait, ressentir de la jalousie, c'est pas honteux, ça fait pas de soi une mauvaise personne, ni un ou une mauvaise partenaire. Ce sont des choses qui arrivent, mais, et là c'est là aussi, il faut pas être sur la culpabilisation de soi-même, mais il faut arriver à dire les choses réellement telles qu'on les ressent. Parfois c'est irrationnel, parfois on va dire « Ah bah il s'est passé ça, et puis j'ai eu peur que tu me quittes et que tu me rayes de ta vie », alors que t'es allé boire un café avec une personne. C'est la proportion, elle peut être complètement irrationnelle. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le dire et qu'il faut enjoliver les choses. Là, on est en tempête, le cerveau, donne des proportions énormes à des déclencheurs qui sont, vus de l'extérieur, improbables. Et ça arrive, c'est pas grave.
Par contre, là où il faut être honnête, c'est que si on va boire un café et que, en fait, ça se passe pas bien dans la relation, qu'on n'y a investi plus rien, qu'il y a une vraie chance que la relation s'arrête, et qu'on dit « non, tout va bien, c'est dans ta tête », là, on est en train de nier la réalité de l'autre, parce qu'en fait, il ne faut pas prendre ses partenaires pour des imbéciles.
Il ne faut pas promettre des choses qui ne sont pas vraies.
Voilà. Et donc, si, en effet, ça ne se passe pas bien dans la relation, et que, lorsque je suis allée boire ce café, en fait, je suis en train de commencer une nouvelle relation, eh bien, il faut le dire. Sinon, si on mentir, ça peut être nuancé là-dessus. Mais ça amène rarement, des solutions pérennes.
Disons qu'en fait, si on donne une fausse réponse, l'autre va finir par le ressentir aussi. Et là, on passe sur un cycle d'insécurisation l'un de l'autre. Et on s'en sort pas. Mmh. Et c'est là que l'honnêteté radicale, c'est un exercice qui est très difficile. Hein. C'est envers soi-même et envers l'autre, quel que soit. Qu'on soit la personne qui a ressenti de la jalousie ou la personne à qui on dit « je ressens de la jalousie dans telle situation ».
On ne promet pas à une personne de ne pas s'inquiéter, par exemple, si en fait elle a des bonnes raisons de s'inquiéter. Souvent, il y a une phase après où on va demander quelque chose à l'autre. Parfois, on demande quelque chose à ses partenaires, parfois, ses besoins, on peut y répondre avec d'autres stratégies, soit par soi-même, soit auprès d'autres proches, que ses partenaires romantico-sexuels. Question de est-ce que j'ai le droit de demander ça ? C'est pas trop exigeant. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on parle un peu de trauma.
Après, il y a aussi, pour moi, toute notre pensée autour de ce que c'est que la jalousie, qui est, pour moi, assez toxique. Je pense qu'on a, pour beaucoup, appris que la jalousie, c'était un marqueur de l'amour. Que, quelque part, il y a pas mal de gens qui disent « Mais si mon partenaire, il est pas jaloux de moi, c'est qu'il m'aime pas vraiment. » Et ça, c'est terrible, parce que ça crée beaucoup de souffrance, en fait. Et en fait, pour moi, la jalousie, elle est plus aussi le symptôme de l'insécurité que tu as en toi, ou de la possessivité que tu as, du coup, envers ton partenaire. Et ça, c'est pas de l'amour. Enfin, la possessivité, c'est pas de l'amour. Donc je pense qu'il y a tout un travail de déconstruction aussi de qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi et comment est-ce que tu veux le montrer à ton partenaire. Et prendre soin de ta jalousie et de ce qu'elle t'indique, prendre soin de toi pendant ces moments où tu vis cette jalousie. Parce que quand je dis que c'est une des insécurités, je le minimise pas du tout. C'est extrêmement important et il faut en prendre soin, mais c'est pas, voilà, des marqueurs d'amour. Donc je pense que le fait de déconstruire sa pensée, ça aide aussi à gérer cette jalousie.
Donc souvent il y a des besoins de réassurance quand il y a de la jalousie qui est exprimée, il y a derrière une demande qui est « rassure-moi ». Et donc, là encore, personne n'a le mode d'emploi de l'autre. Donc, quand on demande à être rassuré, ce qui est important, c'est de dire comment je me sens rassuré. Et c'est là où je vais apporter de la nuance. Le fait d'être dans une démarche progressive. Et donc, si au départ, il y a besoin de mettre un cadre qui est très rigide et très strict, c'est OK. En fait, la sécurité, elle arrive quand un cadre qu'on pose qui est contrôlant, coercitif parfois au départ, mais que ce cadre est respecté, alors le cadre va pouvoir évoluer quand la relation est saine. Au départ, quand il y a beaucoup de peur, et là, en effet, le trauma peut venir jouer, quand la personne en face de nous ressent de la jalousie parce que c'est une activation traumatique d'une relation précédente, de maltraitance dans l'enfance, etc., les demandes au départ, elles sont pas rationnelles, en fait. Et c'est OK. Parce que si on maintient ce cadre, si on sécurise l'autre, eh ben, le fait de pouvoir réparer petit à petit, apporter plus de sécurité, ça va assouplir le cadre. Et là, c'est le temps qui est l'allié principal. Et donc, c'est cette question de progressivité. On commence avec des tout petits pas, des toutes petites étapes, et plus avec un cadre très strict. Et plus ça se passe bien, plus la personne, elle va pouvoir se sentir de plus en plus sécure. En fait, les gens qui arrivent en disant « Moi, je veux ouvrir, je veux être dans une relation polyamoureuse et avoir plusieurs partenaires et qui ont comme vision un espèce d'idéal fantasmé de « Tout se passe bien, on peut tous se parler et être copains et je sais pas quoi », oui, ça existe. Ça existe pour des gens qui sont sécures, qui ont eu des relations qui étaient pas pétées pendant des années. Et donc, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Il faut commencer petit et aller vers, vers quelque chose qui est de plus en plus flexible. Mais exactement. Au départ, c'est un idéal.
C'est ça. On a tous une zone de confort, une zone de sécurité qui a un périmètre. Et on peut pas se dire, OK, ma zone de confort, elle est toute petite et d'un coup, je vais être à l'aise sur des trucs qui sont très très loin de ce dont j'ai l'habitude. On va juste sécuriser, faire grandir petit à petit notre zone de confort pour qu'elle soit de plus en plus grande. Mais on ne peut pas partir d'un petit pois à une pastèque du jour au lendemain parce qu'on a décidé d'ouvrir notre relation.
Ouais. Et les contours de la pastèque, du coup, c'est les zones d'activation. Donc là, le système nerveux s'active, on passe en mode survie. Et là, quand on est sur de l'activation à ce niveau-là, on n'est pas dans la construction. Donc il y a la zone de confort, la zone d'inconfort et d'apprentissage, on va dire. Donc on va faire des allers-retours, on va aller toucher cette zone, puis on va revenir dans sa zone de confort. Et la zone d'activation. Et en fait, les ouvertures, quand elles sont déjà, dès le départ, sur la zone d'activation, on ne peut pas avancer, en fait. On est dans une réponse qui est de l'ordre de la survie. Donc, il y a les 4 F, 4 façons de répondre quand on est activé et qu'on se met en mode survie. Ça va être le fawn, se soumettre. Ça va être le fight, attaquer. Ça va être le freeze, se dissocier. Et le flight, la fuite. Il y a des super ressources là-dessus et ça, je pense que c'est intéressant. Il y a Clémentine Morrigan qui a fait un fanzine qui s'appelle « Aimer sans urgence » et qui reprend un peu la théorie polyvagale, qui reprend les théories de l'attachement aussi et qui explique un peu tout ça parce que Clémentine Morrigan, c'était une personne qui était insécure, polytraumatisée et qui est rentrée dans les relations plurielles et qui explique tout son parcours. Et c'est très intéressant de voir comment elle est passée d'un attachement insécure, multiples traumatismes, à des relations plurielles sécurisantes.
Là, on parlait de poser un cadre qui potentiellement est très rigide et restrictif au début. La question à se poser, c'est dans quelle mesure c'est légitime ou coercitif ? Et là, en fait, il va y avoir plusieurs aspects qu'on va venir questionner. Est-ce que c'est un cadre qui est un cadre d'apprentissage voué à évoluer ? Est-ce que ce cadre répond à juste de la peur ou un besoin de contrôle qui n'est pas sain? Et c'est là où, parfois, c'est difficile de savoir où est la juste limite. Mais c'est important d'aller se questionner sur ce point-là.
Ouais. Et je pense que quand on reçoit des demandes comme ça, il y a un truc d'alignement avec nos valeurs. Par exemple, une personne qui dit « je veux aller regarder ton téléphone », par exemple. Là, on peut se dire « en fait, là, c'est non. Enfin, je sais que tu es insécurisé, mais on va trouver une autre stratégie pour répondre à ton besoin. Parce que ça, c'est pas aligné avec mes valeurs. Et donc, là, il va falloir poser quelque chose de strict, quoi. Et notamment, il y a la question de confidentialité, de respect de la vie privée, etc. C'est des choses qui sont quand même importantes. Jusqu'où je suis prête à donner le contrôle à l'autre sur ma vie. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles on est OK, parce qu'on veut accompagner sa partenaire dans sa sécurisation. Et il y a d'autres choses, c'est pas OK. Et c'est à chacun.
Exactement. Et c'est là qu'on va pouvoir faire la différence entre les limites, les règles et les accords. Ouais. Ce qui va permettre de faire la différence entre une limite qui est une barrière, une frontière personnelle, comme tu disais, de nos valeurs, de nos besoins. Genre, mon téléphone, c'est mon espace privé, j'ai besoin que tu le respectes. Ça, c'est une limite, je ne veux pas qu'on fouille dans mon téléphone. C'est une limite. Là où je veux que tu me donnes ton téléphone pour que je regarde dedans, là, on est sur quelque chose de coercitif qu'on va venir imposer à l'autre. On parle plus de soi, on parle du contrôle qu'on veut avoir sur l'autre. Et ça, cette différence, elle est importante à comprendre pour pouvoir se parler de façon plus saine au sein de nos relations. Et savoir si, est-ce que là, cette restriction ou ce besoin de contrôle sur toi, c'est quelque chose de temporaire pour apprendre ou c'est quelque chose qui est non négociable et que je t'impose. Et là, en fait, on va se heurter aux valeurs de l'autre.
Les accords, je le vois plutôt comme un ensemble de choix co-construits dans un cadre qui est évolutif et adapté à chacun chacune. Ça a une fonction d'organisation de la relation et de co-régulation. Et par exemple, ça veut dire « nous avons choisi que ». Cela nous aide à rester connectés quand on fait ceci ou cela. Et donc là, ça va être vraiment quelque chose qui va être décidé de manière commune. Et bien, nous avons choisi que... on ne dormait pas chez nos autres partenaires. On a choisi ça parce que, à ce moment donné-là, dans cette configuration-là, les deux sont d'accord pour dire que c'est ça qui va. C'est différent de « tu ne dois pas aller dormir chez les autres partenaires ». C'est intéressant de se demander, par exemple, dans la monogamie et toutes les règles ou choix implicites faits dans la monogamie, par exemple, on donne le contrôle globalement sur la liberté à disposer de sa sexualité avec autrui quand on choisit l'exclusivité.
Est-ce qu'on donne le contrôle ou on attend que l'autre nous donne le contrôle sur son propre corps? Est-ce que l'exclusivité, quand on est en relation hétéronormative, c'est j'attends que tu fasses avec ton corps ce que je veux bien que tu fasses avec ton corps?
C'est très implicite, donc moi je sais pas. Et je sais pas à quel point les gens choisissent consciemment ça.
Exactement, c'est quelque chose qui est assez peu questionné, genre l'exclusivité, est-ce que je la choisis pour moi parce que moi je n'ai pas envie d'avoir d'autres partenaires, d'explorer ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose que j'attends de toi et que si tu ne le fais pas, je te repousse, je te rejette ou j'arrête notre relation.
C'est les deux.
Voilà, mais en fait c'est quelque chose qui n'est pas questionné ou qui est peu questionné, et arriver à se questionner sur est-ce que l'exclusivité ou la non-exclusivité, c'est un choix que je fais pour moi ou c'est un choix que je t'impose pour être en relation avec moi?
Et c'est pas bien ni mal, en fait. C'est le contrat implicite de la monogamie, c'est exactement l'exclusivité sexuelle et romantique.
La question, c'est est-ce qu'on se pose la question? Juste savoir, est-ce que c'est quelque chose que j'attends de toi ou est-ce que c'est quelque chose que je choisis pour moi? Et c'est là où on est sur la différence limite-règle. Est-ce que je le choisis pour moi, c'est ma limite? Est-ce que je te l'impose, c'est une règle. Et là, peu importe en fait la réponse, c'est juste est-ce que ça convient à tout le monde.
Gelosia, la farsa finita, io ti voglio mia, lasciarti ad un altro è solo una follia, soltanto al pensiero mi sento.
Il y a des phénomènes où on a du mal à exprimer ses limites quand on se suradapte à l'autre. Là encore, le genre vient jouer de manière drastique. L'effacement de soi, le fait de minimiser ses besoins, et tout ça, ça va être assez corrélé avec les rôles genrés. Là encore, moi, je trouve que le bon indicateur pour dire qu'une limite a été dépassée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les émotions de colère, la jalousie, le malaise.
La peur.
Quand on vient ressentir ça, c'est qu'il y a quelque part peut-être une limite. Et donc, c'est là où il faut aller écouter.
Jalousie, la farce finie.